Radio Okapi.
Mal, agat puna elema.
Okapi.
Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé est désormais connu. Il a été élu hier samedi. Les trois points inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire sont ainsi épuisés, mais il faut noter que jusqu'ici, les plénières se tiennent dans une salle de classe, faute d'infrastructure. L'armée congolaise recrute. Les concours d'admission à l'Académie militaire congolaise sont à leur deuxième jour ce dimanche à Goma. Les forces armées congolaises voudraient avoir des spécialistes de ce métier, affirme le superviseur des opérations de recrutement au sein de la 34e région militaire. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la SNEL Katanga, qui met en garde les personnes qui creusent des ravins au pied des pylônes haute tension à Lubumbashi pour fabriquer des briques. La police et le parquet sont sur l'affaire et les auteurs de ces actes seront poursuivis en justice. Bonjour à tous et merci de suivre Radio Okapi pour vous informer. L'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé dans l'ex-province orientale est dotée désormais de son bureau définitif. L'élection des membres du bureau a eu lieu hier samedi. Il est présidé par Eddy Pascal Sinango du PPRD. Par cette élection, cette nouvelle institution provinciale vient donc épuiser les trois points d'inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire convoquée depuis lundi dernier. Dorcas Kankou.
C'est au cours de la plénière de ce samedi 1er août que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé a été élu par les 18 députés provinciaux. Deux femmes font partie du bureau composé de 5 personnes. Il est présidé par Eddy Pascal Sinango du PPRD et secondé par Gilbert Mokoto à la vice-présidence, élu en 2006 sur la liste MLC. Alfred Mungu et Godlive Anina sont désignés respectivement comme rapporteur et rapporteur adjoint. Joséphine Chausiku, elle, est désignée comme questeur. Par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, les députés du Bas-Ouélé ont épuisé le 3 points inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire, soit la validation de mandat, l'adoption du règlement intérieur et l'élection du bureau définitif de l'organe délibérant. Selon les députés provinciaux du Bas-Ouélé, en attendant l'installation du bureau définitif, le règlement intérieur adopté a été transmis à la Cour constitutionnelle pour conformité. Par ailleurs, faute d'infrastructure, les séances plénières se sont tenues dans une salle de classe d'une école située à 4 km du chef-lieu de la province. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Merci Dorcas. La commission d'audit du fichier électoral, composée de la CENI, de l'opposition et de la majorité, est élargie à la délégation de la francophonie, a rendu public son rapport à mi-parcours de l'examen du fichier électoral de la RDC hier samedi à Kinshasa. Résultat, des forces mais aussi des faiblesses, notamment des doublons et des personnes sans empreinte qui ont été dénichées. On écoute le président de cette commission d'audit, le Malien Sake Sangaré. Il est au micro de Donna Madi.
Sincèrement, si les anomalies ont été limitées, c'est dû en grande partie au travail abattu par la CENI. Il faut le reconnaître ici et je voudrais franchement féliciter la CENI pour ce travail gigantesque. Mais ce n'est pas fini. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Les travaux doivent reprendre au mois de septembre et cette fois-ci, nous allons approfondir les investigations sur par une analyse des différentes bases. Il y a aujourd'hui trois ou quatre bases qui ont été utilisées depuis 2006 jusqu'à maintenant. Il faut approfondir l'analyse, il faut aller à un test, à la biométrie, au test biométrique. Il faut faire en sorte que nous puissions identifier toutes les faiblesses de ce fichier-là en vue de pouvoir apporter les solutions.
Quant à l'enregistrement des nouveaux majeurs, la commission invite la majorité et l'opposition à se mettre d'accord sur cette question afin que la CENI sache quoi faire, un avis que la CENI partage pleinement. Deuxième titre de ce journal, les concours d'admission à l'Académie militaire congolaise sont ce dimanche à leur deuxième jour à Goma. Pendant au moins 3 jours, les 658 candidats venus des différents territoires de la province du Nord Kivu et qui se sont inscrits à ce concours vont passer leurs examens théoriques au centre ouvert à ce sujet à Goma. Pour le superviseur des opérations de recrutement au sein de la 34e région militaire, cette opération entre dans le cadre de la réforme de l'armée congolaise. Colonel Didier Manda est ici au micro de Bernard Danyangi.
L'armée voudrait avoir aujourd'hui des militaires spécialistes de son métier. Et c'est ainsi que nous avons recruté des jeunes universitaires, c'est-à-dire ils sont gradués ou licenciés. Nous avons aussi recruté les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, détenteurs de diplômes d'État, pour aller à l'académie militaire. On les amène pour une année afin d'apprendre les fondamentaux de leur carrière, de leur métier d'officier. Une année après, si on est détenteur d'un diplôme d'université, on sort, on est sous-lieutenant, on prête serment et on commence le travail. Il y en a qui sont ici, vous le voyez en uniforme, qui sont en train de passer le même concours. Ceux-là, ce sont des gars qui sont déjà au sein de l'armée et qui veulent se professionnaliser. C'est un peu dans ce sens-là. Et c'est à l'issue des 3 jours que nous saurons si les 658 se sont réellement présentés au concours ou pas.
Notez que le colonel Didier Mandaï déplore tout de même la faible participation des femmes à ce processus, soit moins de 20 femmes sur les 658 candidats inscrits à ce concours au Nord Kivu. À Mbandaka, les patrouilles mixtes armée-police instaurées mercredi dernier par le commandant 13e région militaire commencent déjà à porter des fruits. Certains habitants témoignent d'une certaine baisse de l'insécurité et de la psychose dans la ville, mais d'autres attendent encore pour se rassurer, ce qui justifie le maintien des groupes d'autodéfense dans des quartiers très affectés par l'insécurité. Ces patrouilles sont menées depuis 3 jours sous le commandement du général Johnny Luboya à travers les quartiers résidentiels comme sur la rive, le long du fleuve. Paul Richard Malinguela.
Ce samedi à Mbandaka, les habitants des quartiers Plateau, Bokotula, Mbandaka 3, Mbandaka 1 et Bralima, jadis point chaud d'insécurité, ont témoigné que depuis près de 2 jours, il y a une certaine baisse de criminalité dans la ville. Plus de coups de feu la nuit, a indiqué un habitant de Mbandaka 1. Au quartier Bokotula, Mbandaka 2 et Air Congo, par exemple, les habitants ont dit avoir vu le commandant de la 13e région militaire en patrouille. Toutefois, pour se rassurer, ils souhaitent voir l'arrestation de quelques malfrats qui opèrent surtout en armes. Suite à cette insécurité grandissante, la population et les plateformes citoyennes dont la nouvelle société civile et la notabilité de Mbandaka projetaient déjà d'organiser une marche de protestation face à ce qu'elle qualifie d'indifférence des autorités. À cet effet, le général Johnny Luboya demande le concours de toute la population en dénonçant tous les suspects et en coopérant avec les patrouilleurs afin que cesse définitivement cette insécurité. Entre-temps, des jeunes qui se sont constitués en groupe d'autodéfense par quartier continuent également à veiller la nuit, mais en collaboration avec des éléments de patrouille mixte, a-t-il dit. Rappelons que mercredi dernier, le commandant de la 13e région militaire avait promis devant la presse de s'impliquer en tant que commandant place pour mettre fin à l'insécurité dans la ville. Mbandaka, Paul Chamalenge, la radio Okapi.
Vie des entreprises dans ce journal. La fabrication des briques en dessous des pylônes haute tension. La Société nationale d'électricité SNEL, direction provinciale de l'ancienne province du Katanga, dénonce cette pratique. Des ravins et trous creusés menacent les pylônes d'effondrement. Une équipe composée du directeur provincial de cette société et du parquet de Lubumbashi est descendue sur terrain pour se rendre compte de la situation. Le risque est de voir une grande partie de Lubumbashi plongée dans le noir, prévient le directeur provincial de la SNEL, Fridolin Kou. Mbou Ilunga s'est exprimé au micro de Paulin Munanga.
Nous avons mis la police dessus et le parquet pour commencer carrément à arrêter ces gens là-bas et les déférer en justice. Vous voyez que nous avons 2 lignes qui partent du poste Caravia en 220 kV, la ligne 71 et 72. Et si ces 2 lignes-là s'écroulaient, le répartiteur sud qui alimente 80% de la ville de Lubumbashi n'aura plus de courant. Et c'est pourquoi nous avons déclenché cette opération pour décourager ces gens et que ces gens puissent répondre devant la justice. C'est autour d'une dizaine qu'on a déjà arrêté. Et je vous dis que derrière aussi, ces travaux de briques qu'ils sont en train de faire, nous avons constaté qu'on est en train de voler des cornières, des pylônes. Et quand on démonte des cornières comme ça, on déstabilise les pylônes. Et le risque est très grand pour que, en tout cas, que nous puissions avoir des problèmes.
Et pour finir, c'est l'intersyndicale de la SCTP, Société commerciale des transports et ports ex-Onatra, qui demande au Premier ministre Augustin Matata Ponyo d'autoriser le déblocage de fonds issus des recettes de la redevance logistique terrestre, tout en louant les actions entreprises par le gouvernement Matata en vue de relever les entreprises publiques. Ce banc syndical de l'ex-Onatra estime que ce déblocage de plus de 40 millions de dollars américains permettra à l'entreprise de moderniser non seulement la voie ferrée, mais également les installations portuaires et d'acquérir également du matériel répondant aux exigences de l'exploitation. Lambert Osango, président de l'intersyndicale de la SCTP, s'est confié à Innocent Olenga.
Le Premier ministre a pris une mesure salutaire en faveur de la Société commerciale des transports et des ports ex-Onatra, donnant instruction pour que le tonnage conteneurisé prenne le rail, donc la voie ferrée. Ça, c'est une grande première. Et nous souhaiterions que le gouvernement aille jusqu'au bout, c'est-à-dire les recettes de la redevance logistique terrestre soient effectivement débloquées pour que les différents projets élaborés par l'actuelle équipe à la tête de la société, que ces différents projets se matérialisent, c'est-à-dire se concrétisent. Déjà, ce qu'on a comme enveloppe, au-delà des 40 de millions, si ces millions de dollars peuvent déjà être utilisés, il y a fort espoir que la SCTP réponde aux exigences, relève le défi pour lequel le peuple congolais est en droit de lui exiger. Voilà l'appel que nous lançons au gouvernement de la République, au chef de l'État et au Premier ministre.
12h10 à Kinshasa, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi.
Okapi,
Okapi,
Okapi.